Le coût, l'euro a grimpé à plus de 1,2150 en séance et le CAC 48, vous le disiez, a terminé en très légère hausse de 0,05%, soutenu grâce notamment au poids lourd Total. Et parmi les autres valeurs, Solution 30 retient encore l'attention. La société qui installe la fibre optique et les compteurs électriques dans les foyers a chuté de 19% hier. Elle perd encore 9% aujourd'hui. Un rapport circule sur les marchés financiers évoquant des liens entre la société et des personnes condamnées, notamment pour blanchiment d'argent. Solution 30 a répondu dès mercredi après-midi dans un long communiqué pour démentir, mais cela n'a pas suffi.
Merci Céline Pentex.
Radio G. 101.5 FM.
Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Aérons les pièces plusieurs fois par jour. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci était un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Vous aimez Radio G? Soutenez-la. En faisant un don à notre association reconnue d'intérêt général, vous contribuerez à son développement et à la réalisation de ses nombreux projets culturels, radiophoniques et d'éducation aux médias. Radio G compte sur vous. Rendez-vous sur radio-g.fr dans la rubrique « Faire un don ». Votre participation sera déductible de vos impôts. Alors, n'hésitez plus.
Bonsoir, vous surfez sur les ondes de Radio G et vous écoutez maintenant l'oreille curieuse. Bienvenue dans la quotidienne des découvertes et des actualités culturelles et locales. Vous avez bien raison d'être ici plutôt qu'à l'écoute de notre Premier ministre. Je vous propose de croiser les doigts ensemble, si vous êtes avec nous, dans une émission sympathique et bien remplie. Nous sommes jeudi, et le jeudi, une semaine sur deux, on retrouve des toiles plein les yeux, la chronique cinéma de Margot. Je vous donne rendez-vous en deuxième partie d'émission pour un film qui date de 1965, mais qui n'est pas sans lien avec notre année 2020. Avant cela, nous retrouverons un des partenaires de notre émission, à savoir la saison culturelle de Loire-Authion. On parlera des spectacles programmés début janvier, de l'ouverture espérée, mais aussi du Siffleur, un joyeux seul en scène musical programmé toute fin décembre, le 29, et nous serons avec son créateur, Fred Radix. Derrière le micro et derrière cette émission, c'est Anne-Li qui vous parle. Je vous propose un dicton choisi juste avant de rentrer dans le studio et qui est « Qui peut le plus, peut le moins ». Je vous laisse réfléchir à des exemples et à qu'est-ce que ça veut dire, comme l'équipe du bureau derrière la cloison. On commence cette émission très bien remplie. Je pense que nous la finirons en retard et je vous prie de m'en excuser si c'est un problème. On va écouter Dumb de Annie El-Khatib et on retrouve Loire-Authion juste après.
A decent man, I hope.
Alors ce soir, on retrouve un des partenaires de l'émission avec la commune de Loire-Authion et plus particulièrement la saison culturelle. Bonsoir Céline Ducoq.
Bonsoir.
Alors vous travaillez à la programmation et à la coordination de cette saison culturelle. Je suis assez contente de vous retrouver derrière les micros parce que ça annonce une réouverture, en tout cas qu'on espère. Des spectacles. On va faire le point un petit peu de cet arrêt, de la saison, de ces arrêts ou reports de spectacles. La situation là, vis-à-vis de votre programmation, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui ?
Alors nous, bah, comme tout le monde, le mois de novembre a été un peu une pause, une parenthèse où on n'a pas pu dérouler les spectacles comme on les avait imaginés. Cependant, on a pu quand même malgré tout s'adapter et jouer pour des publics scolaires dans des cas bien précis, ce qui était quand même la joie de pouvoir faire que la rencontre ait lieu. Donc ça s'est plutôt très bien passé avec évidemment un public qui est ravi. Et aujourd'hui, on est plein d'espoir avec la petite fenêtre qui s'ouvre pour la reprise prochaine, qu'on espère très fort évidemment. Et on a fait le choix de reporter un de nos spectacles prévus le 10 novembre, Le Siffleur de Fred Radix, qui jouera le 29 décembre à 18h30, puisqu'aussi il y a un couvre-feu, donc on s'adapte aussi.
Ouais, il a fallu tout adapter, tout changer.
C'est ça, donc on a changé également le lieu, je le précise. On a fait le choix d'aller sur une plus grande salle à Cornet, à l'espace du Sequoia, pour des raisons de confort, de jauge, puisqu'évidemment on sera soumis au protocole sanitaire.
Avec plus de distance entre les spectateurs.
Voilà, ça permet un confort plus large, des conditions d'accueil optimales. Donc ça, c'est notre travail aussi quotidien. Maintenant, on sait faire, hein, on a quelques mois de recul. On a surtout hâte de pouvoir ouvrir les portes et les artistes ont hâte de jouer, évidemment.
Ouais, et le public, sans doute, de retrouver les spectacles.
Oui, c'est ce qu'on voit. Beaucoup de spectateurs ont reporté, sont ravis qu'on puisse jouer malgré tout. Oui, c'est vrai qu'on sent une envie très forte. On sent aussi que c'est un remède à la morosité. On a tous besoin d'avoir des moments d'émotion, des moments de partage aussi, parce que ça devient des choses un peu rares là depuis ces quelques mois et les spectacles en font partie. Donc malgré tout, si on peut venir en famille, entre amis, en petits groupes, mais voilà. Ouais. On espère pouvoir jouer.
Tout ce dont on parle ce soir, bon, on a beaucoup d'espoir. On passe nos journées les doigts croisés. On le met un peu au conditionnel parce que tout évolue aussi très vite sur les autorisations, sur ce qui va être possible. Le mieux, c'est d'aller voir sur le site aussi, un peu au jour le jour, si on a un doute, peut-être, de Loire-Authion.
Oui, c'est vrai qu'on invite, hein, depuis le début de la saison, à se renseigner régulièrement. Là, nous, on attend évidemment les dernières annonces qui devraient arriver le 15 décembre pour ouvrir la billetterie. Donc, dès le 16 décembre, vous pourrez réserver en ligne, mais pas avant, puisque ça ne sert à rien. On préfère vous mettre sur les starting blocks. Et voilà, si les choses se confirment, voilà, tout après pourra être simple, ou en ligne, ou sur place, évidemment, le jour J.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'on invite vraiment les gens à consulter le site internet. Et à acheter dans la mesure du possible à distance, puisque bah, évidemment c'est compliqué les accueils, voilà, on évite les contacts, etc.
Ouais. Vous l'avez dit, il y a des spectacles, Le Siffleur par exemple a été reporté, d'autres qui ont été reportés sur le temps scolaire, pour exister aussi. Il y en a qui n'ont pas pu être reportés avec ce deuxième confinement, je pense au concert des Loire-Vallée Calypso. Après vous avez aussi fait le choix de soutenir même les artistes déprogrammés, on en avait parlé lors d'une émission précédente. Est-ce que vous imaginez les réinviter une autre fois ou bien vous verrez?
Ouais, pour l'instant c'est vrai que c'est un peu compliqué. On essaye déjà de finir la saison qui est amorcée. C'était un projet, un accueil particulier dans un cadre spécifique. Donc évidemment qu'on est toujours, on sera toujours content de les réaccueillir, mais on a fait le choix d'un commun accord que cette date ne pouvait pas avoir lieu là en l'état actuel. D'autant plus que c'était un concert et la convivialité aurait été vraiment importante. Donc voilà, on a préféré annuler cette date qui est au final une des rares qu'on a annulée de manière sèche. Voilà, il y a encore des choses qui sont en questionnement pour d'autres dates.
Ouais. Pour la reprise donc, de cette saison, donc on espère à la fin du mois de décembre et puis pour début 2021. Donc tout sera adapté avec des jauges réduites, les protocoles sanitaires demandés et appliqués. S'il y a d'autres reports ou des annulations et qu'on a acheté un billet, comment ça se passe ?
Alors nous, la billetterie, le service vous contacte hein, pour vous donner toutes les marches à suivre à chaque fois. Donc nous, quand vous le souhaitez, vous pouvez reporter sur d'autres spectacles, évidemment. Et si c'est pas le cas, on rembourse l'ensemble des billets. Voilà, il y a toute une procédure qui commence aussi à être rodée. Et c'est un peu long, ouais. Certes, mais voilà, c'est aussi beaucoup de travail derrière qui ne se voit pas forcément, mais voilà, c'est ce qui explique aussi parfois la longueur un peu de ce type de procédure. Mais voilà, on est plutôt confiant. On espère que janvier sera en tout cas une reprise, ouais, vraiment plus sérieuse. Et puis la suite, bah ça, voilà, personne ne la connaît, donc on attend patiemment.
On verra ça tous ensemble. Donc le prochain spectacle, c'est Le Siffleur de Fred Radix. Vous en avez dit quelques mots et on va entendre Fred Radix en interview juste après. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des autres spectacles qui sont programmés dès à présent sur le mois de janvier? Je pense à Barbe Bleue ou bien il y a Potiche. Alors je ne sais pas si vous avez quelques mots pour nous présenter ces deux spectacles.
Oui, alors donc Barbe Bleue, c'est le comédien Titus qui vient présenter sa version du Barbe Bleue assez bien racontée. On est dans l'univers du conte, mais porté par un personnage très burlesque et très décalé, un peu grinçant par moments.
Et c'est vrai que Barbe Bleue assez bien racontée, c'est le titre complet, c'est pas juste
c'est
Barbe
ça,
Bleue.
Tout à fait, ouais.
On sent déjà le décalage.
Oui, voilà, c'est ça. C'est un spectacle qui est à voir en tout public, en famille, puisque c'est vrai qu'il parle autant et presque avec un autre regard aux adultes, autant qu'aux enfants. Voilà, on est sur cette proposition qui sera accompagnée également le vendredi 8 janvier d'une conférence sur les dangers de la lecture. Donc évidemment, on sent bien aussi le décalage et on le présente volontairement en médiathèque. Ce sera la médiathèque de Brun. Donc on l'avait annoncé à 20h, on l'avancera à 19h en raison des couvre-feux. Et effectivement, on poursuit le mois de janvier, le 22 janvier, avec Potiche, qui est la création des compagnies Spectabilis et Piment Langue d'Oiseau, autour d'une comédie bien connue, qui a été portée à l'écran, enfin voilà, qui a un texte à la fois très drôle, évidemment, mais qui soulève aussi des questionnements sur le féminisme. Mm-hmm. Donc ce sera la première, puisque... Et malheureusement, les compagnies n'ont pas pu pour le moment créer ce spectacle. Elles l'ont répété, tout est prêt.
Ouais,
et la première aura lieu ce soir-là à Andard, à l'espace Jeanne de Laval.
Bon, ça donne encore plus envie de découvrir le spectacle, la primeur. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous mettez en place ou d'autres choses que vous avez envie d'évoquer là dans cette émission, ce temps-là, cette dernière émission avant la fin d'année, où on a dit pas mal de choses?
On a déjà fait pas mal des choses, parce que c'est vrai qu'après, on sera plus loin dans la durée. Avec évidemment des temps forts qui vont ponctuer encore la fin d'année, certainement d'autres modifications, puisque c'est vrai que les projets peuvent pas se dérouler forcément comme on l'avait prévu.
Ouais, et puis nous on se revoit, on se réécoute régulièrement à l'antenne aussi,
c'est ça,
pour annoncer toutes ces dates. Merci beaucoup.
Merci à vous de nous avoir accueillis.
Et on va écouter Fred Radix qui va nous parler en détail donc de ce Siffleur, qui a l'air assez réjouissant et
Oui, c'est un bon remède dans la période actuelle.
Je redonne l'adresse du site où vous allez retrouver toutes les infos sur cette saison culturelle de Loire-Authion. C'est loire-authion.fr.
Attendez. Alors, non, pour ce qui est de siffler, je fais le job. Hein? Non, mais...
Et maintenant, nous sommes avec Fred Radix, alias le Siffleur, que l'on retrouvera le 29 décembre, en tout cas on l'espère, dans le spectacle du même nom. Ce sera à Cornay, sur la commune de Loire-Authion, bien sûr. Bonsoir Fred Radix.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors dans ce spectacle, Le Siffleur, on entend déjà beaucoup de choses dès le titre de qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver. Mais le point de départ, c'est aussi un répertoire de musique classique que vous allez siffler donc.
Oui, oui, effectivement, ça s'appelle Le Siffleur. En fait, faut que je remette un peu des choses dans le contexte. Moi, je suis comédien, musicien, humoriste depuis une vingtaine d'années. Je joue autant dans le réseau du théâtre de rue que du théâtre de salle. Je me balade, je fais ma carrière, des fois en chanteur, des fois en metteur en scène.
Vous avez fait beaucoup de choses et même du dessin avant tout ça, j'ai cru voir.
Effectivement. Entre autres défauts, je siffle toute la journée depuis des années, et c'est plutôt mes collègues artistes avec qui je traînais pendant des heures en camion de spectacle en spectacle qui me disaient, mais avec un sifflet pareil, il faudrait un jour que tu en fasses un spectacle. Alors je disais, oui, vous êtes drôle, mais je vais pas monter sur scène en disant, ben voilà, je suis le siffleur et je vais vous siffler des airs. Ça n'a pour moi aucun intérêt. Enfin, c'est un art un peu dépassé, un peu désuet. Et puis, bon, c'est rigolo 5 minutes qu'un cas qui siffle bien, mais voilà, d'après moi, ça casse pas 3 pattes à un canard.
Ça vous semblait pas suffisant, en tout cas?
Ben ouais, moi, à mon goût, moi qui viens du théâtre de rue, qui aime mélanger les arts, les disciplines du clown, donc le clown, il sait tout faire, il sait faire rire, il sait émouvoir, faire une cabriole, jouer de n'importe quel instrument de musique. Voilà, il y a un côté un peu art total que j'apprécie et que je développe. Donc, venir sous mon nom siffler des airs, je trouvais pas ça très intéressant. Et pour prendre mes camarades au mot, j'ai eu l'idée un jour de me dire, ah mais attends, quand on siffle... Il y en a qui ont essayé, mais quand on siffle, je sais pas, des grands classiques, Bessame Mucho, des airs de chansons françaises, c'est tout de suite hyper kitsch, on dirait ça fait une très bonne bande son pour de musique d'attente, soit sur un répondeur téléphonique, soit dans un ascenseur, soit dans une pizzeria, une fausse pizzeria italienne de banlieue d'Angers. Voilà, je donne cet exemple, ça pourrait être une autre ville, hein. Et par contre, en sifflant de la musique classique, j'ai trouvé ça intéressant comme son. Et puis, je me suis dit, ça c'est intéressant de travailler un instrument du quotidien qu'elle sifflait, hein, que les bricoleurs du dimanche utilisent, les promeneurs et autres maçons et peintres en bâtiment en tout genre, et de le mettre avec la musique savante qu'est la musique classique. Et je me suis dit, tiens, le mélange des deux, il va être vachement intéressant. Et donc, j'ai créé ce personnage en queue de pie, nœud papillon, hyper classique, qui a l'impression qu'il est le seul dans sa catégorie, qu'il est le meilleur siffleur du monde. Et j'ai mis mon personnage dans la rue, avec cette image complètement décalée, absurde et en même temps hyper poétique d'un mec en costard queue de pie, nœud papillon, qui siffle des grands airs classiques. Et le pire, c'est que ça a marché.
Avec tous ces contrastes, quand même, ça a suscité de la curiosité et l'envie de vous écouter un peu partout.
Effectivement, en fait, tout le monde me renvoyait l'image que c'était en fait vachement beau, intéressant de mettre du sifflet sous cette musique. Donc les gens répondaient déjà positivement au premier degré sur ce que je proposais, parce qu'évidemment je me suis pas moqué du monde. Ça fait quand même des années que je travaille ce sifflet, donc je maîtrise un savoir-faire et puis une technique que le commun des mortels n'a pas. Hein. Vraiment, j'essaye d'atteindre et des notes très très hautes et de siffler très juste et d'y mettre de l'émotion et de la technique et aussi des staccato de petites notes enchaînées qui rendent la chose impressionnante. Mais évidemment, j'ai trouvé ce personnage complètement décalé, et ce qui m'a permis de créer un spectacle complètement, j'appelle ça moi un one man show musical, parce que c'est on rit autant qu'on apprécie la musique, enfin je l'espère, et qui n'est pas que de la musique classique, hein. Évidemment ça commence par de la musique classique, mais mon personnage au fur et à mesure du spectacle se rend bien compte que la musique classique, les gens la connaissent, mais pas trop les airs connus. Puis petit à petit, j'intègre d'autres airs plus connus sifflés, à savoir évidemment des musiques de films ou toute autre mélodie qu'on peut avoir en tête.
Mais effectivement, on sent qu'il y a à la fois des compétences très précises, très techniques. Vu du commun des mortels, ça a l'air difficile. Il y a aussi l'écriture. Et puis on va pas entendre que des choses. Vous racontez aussi beaucoup de choses. Il y a de l'humour, vous l'avez évoqué. Puis il y a aussi beaucoup d'anecdotes sur la musique que vous sifflez.
Voilà, exactement. Ouais. Je suis quand même allé rechercher, j'aime bien me documenter, toutes les anecdotes sur le sifflet, par exemple, que Mozart se faisait conseiller un musicien qui était excellent siffleur et que ça l'a inspiré pour une de ses œuvres, que les siffleurs étaient avant sur scène dans un opéra. Il y a eu un siffleur pour un rôle, puis après il a été remplacé par un autre instrument. Et puis les siffleurs étaient dans les cinémas dans les années 60, quand il y avait un changement de bobine, quand les films étaient longs, il y avait à l'entracte soit des jongleurs, des magiciens et des siffleurs. Voilà, je suis allé chercher toutes les petites anecdotes, je les ai malaxées, j'en ai fait un spectacle qui raconte comme ça une sorte de, d'histoire de la musique sifflée, bah, qui est évidemment imaginaire, puisque on voit jamais la musique sifflée sous un angle chronologique. Et puis surtout, voilà, moi venant du théâtre de rue, je développe tout un décalage avec le spectateur, que je mets un peu en boîte et que je fais participer, et ce qui fait que le spectacle est vraiment, les gens ressortent en disant je savais pas à quoi m'attendre, je pensais pas que j'allais autant rire. Et c'est vraiment ce mélange entre l'humour, le sifflet qui interpelle et l'interaction publique qui fait que le spectacle, eh ben, on est à sa 7e année de tournée et sa 630e représentation. J'ai pas compté à Loire-Authion à combien on en sera, mais pas loin de 630, c'est ça.
Et donc pas mal. Faut déjà savoir siffler si on vient voir le spectacle. Parce que moi, j'ai mis beaucoup d'années à apprendre à siffler, par exemple.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Aïe. Ben non, on n'est pas égaux avec le sifflet, selon sa morphologie, ses dents, la grosseur de sa langue, et puis le temps qu'on y a passé aussi à le travailler, puis l'oreille musicale aussi. Il y a des gens qui arrivent à faire un son sifflé, mais qui est complètement faux, donc absolument inaudible, parce que malheureusement, tout ça passe par l'oreille. Quand on chante faux, on siffle faux, ça, il n'y a rien à faire. Mais non, venez au spectacle, même sans savoir siffler. Ouais, pardon, je suis désolé. Il y a une petite... Je peux même dévoiler, pardon, qu'il y a une petite masterclass à l'intérieur du spectacle pour les non-siffleurs et pour les siffleurs.
Et c'est aussi un spectacle que vous aviez pu proposer accompagné d'un quatuor à cordes. Là, c'est la version solo où il y a uniquement vous qui sifflez. Oui. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que c'est plus difficile, plus facile, plus riche?
Ouais, ben c'est deux spectacles différents qui ont la même trame. Mais non, c'est différent parce que je dirais que la version solo, c'est plutôt un one-man show musical, humour et musique. Et quand je suis entouré d'un quatuor à cordes, ben forcément, il y a une force de la musicalité qui prend, sans prendre le dessus, mais qui y a un autre intérêt à ça. Maintenant, les gags sont vraiment assez similaires. Sauf que maintenant, je mets en boîte aussi les quatre musiciennes qui sont avec moi sur scène. Donc, les deux spectacles peuvent se voir indifféremment l'un de l'autre, même si la trame est la même. C'est vraiment une raison, très, très, très honnêtement, de taille de plateau. C'est-à-dire que dans les grands théâtres, au-delà de 300 places, on vient avec le quatuor à cordes, parce que là, pour les gens qui sont au fond, puis pour il y a plus de spectateurs, donc plus de rentrées d'argent, donc on peut venir à plus nombreux aussi. Et quand c'est des spectacles de moins de 300 places, eh bien, je viens souvent avec la formule solo qui est plus légère, qui s'adapte aux tailles de salle et au budget. Mmh. Mais effectivement, par contre, quand on me voit en version solo, je suis accompagné par une bande son qui a été enregistrée par le même quatuor. Donc même si elles ne sont pas là physiquement, c'est bien elles qu'on entend dans la sono.
Oui, puis il y a la force du sifflet avant tout qui est au cœur du spectacle. Puis j'ai l'impression que c'est aussi le sens de votre travail par ailleurs, d'approcher la musique ou même différents arts de façon décalée. Je pense à une de vos dernières créations, La Claque, qui est un spectacle...
Tout à fait.
Sur les...
Alors, La Claque, voilà, c'est ça. Ça parle d'un autre vieux métier du théâtre qu'on a oublié, dont on connaît plus ou moins l'existence. C'était les claqueurs au théâtre, notamment au 19e siècle, qui étaient présents à chaque représentation et qui étaient là pour mettre l'ambiance dans les théâtres bourgeois parisiens notamment, mais aussi dans les opéras et un peu partout en Europe. Et il y avait des chefs de claque qui avaient sous leur direction une quarantaine de claqueurs qui ne faisaient pas qu'applaudir, qui applaudissaient, qui riaient, qui lançaient les émotions et les interjections, les bravos. Donc ça, c'est incroyable. Moi qui aime bien me documenter, j'ai trouvé des histoires folles. Donc j'ai écrit un spectacle autour de ça, alors qu'est un spectacle théâtral, musical. On est trois sur scène, et qui n'est pas une conférence, mais un peu comme le siffleur. J'y glisse plein d'informations qui donnent envie d'aller encore plus se renseigner après le spectacle. Du moins, je l'espère.
Et pour revenir sur ce spectacle, donc, qui jouera bientôt dans la région, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres professionnels du sifflet? Parce que c'est quand même assez singulier comme métier.
Oui, c'est certain. Non, très honnêtement, un professionnel du sifflet, il n'y en a pas. Mais après, je dois avouer qu'il n'y en a pas à part moi. Même si moi, je suis plus un comédien, musicien, qui a créé un spectacle autour du sifflet et du siffleur. Parce qu'en vérité, par exemple, moi, je siffle 2-3 fois dans l'année. On m'appelle pour siffler sur une musique de film ou un court-métrage d'animation, ou de doubler un comédien qui ne sait pas siffler et dont le scénario a besoin de siffler, ou alors des musiciens qui m'invitent à faire un petit coup de sifflet sur un album. Mais ça, c'est 10 occasions dans l'année, donc ça ne suffit pas à devenir, je dirais, siffleur professionnel, entre guillemets. C'est bien grâce au spectacle où je suis à la fois comédien et humoriste que les gens viennent au spectacle, parce que une fois que ce spectacle aura fini de tourner, je vivrai avec mes autres créations. Et malheureusement, non, il y a malheureusement pas assez de de boulot, j'ai envie de dire, pour qu'il y ait d'autres siffleurs professionnels, parce que par contre, des excellents siffleurs, il y en a beaucoup, un peu partout dans le monde. Moi, je corresponds avec quelques-uns en Inde, au Japon, au Québec. C'est assez fou, ce sifflet dans différentes musiques. Mais personne n'y a pas assez de métier pour un siffleur. Et puis, si je m'étais présenté, on en revient au début de l'interview, en tant que uniquement siffleur, venez m'écouter siffler, il y aurait certainement un petit public d'amateurs, parce qu'il y en a, mais ça n'aurait pas eu le succès et les 600 représentations que j'ai pu avoir avec ce spectacle.
Et puis, on comprend bien que c'est un personnage avant tout, ce siffleur, et qu'il y a beaucoup de choses aussi dans ce spectacle. Merci beaucoup, Fred Radix.
Avec plaisir.
Donc, on vous verra, si tout va bien, si on peut à nouveau sortir voir des spectacles. Et vraiment, j'adresse mes prières à la Lune chaque soir en ce sens. Ce sera le 29 décembre à 18h30 à l'espace Sequoia à Cornet à Loire-Authion.
Et on pourra. Moi aussi, je touche du bois et je touche l'espace Sequoia pour que ça se passe et que ça se passe.
If you wanna find me, you will.
After Brother River.
If you wanna kiss me, you will.
After Brother River.
If you wanna love me, you will.
After Brother River.
But nobody can find me. You know you have to take a boat.
Yeah. And if you take a boat,
raise a big boat of goddess. But I warn you, you will probably meet, a giant octopus. If you wanna kiss me, you will.
After Brother River.
If you wanna find me, you will.
After Brother River.
If you wanna love me, you will.
After Brother River.
Nobody
can find me.
If you wanna kiss me, you will.
After Brother River.
If you wanna find me, you will.
After Brother River.
If you wanna love me, you will.
After Brother River.
Nobody
can find me.
Come on, everybody on the big boat of Dennis with the Dwarf of Lake Calypso.
C'était les Loire-Vallée Calypso avec The Giant Octopus pour vous mettre du baume au cœur. Vous êtes à l'écoute de Radio G, le 101.5 FM à Angers, et à l'écoute de l'Oreille Curieuse. Alors je vous invite à aller consulter les infos sur le site de la commune de Loire-Authion, loire-authion.fr. J'ai bien peur que le spectacle dont on vient de parler avec Fred Radix, et qui me paraît vraiment un beau spectacle, ne puisse pas avoir lieu le 29 décembre, puisque Jean Castex parle en ce moment même. Est-ce que je vous fais un débrief? Allez, les théâtres et les cinémas ne vont pas rouvrir tout de suite, et on en reparlera, si tout va bien, le 7 janvier. Donc a priori, on va rester un petit peu encore sans sortie. À partir du 15, la semaine prochaine, il n'y aura plus besoin de faire une attestation pour sortir de chez soi. On pourra se déplacer entre régions, mais il y aura un couvre-feu à partir de 20h et jusqu'à 6h. Et le seul jour où il sera levé, ce sera le 24 décembre pour Noël. Mais ne comptez pas dessus pour faire la fête le 31 décembre. Voilà le point briefing que je vous fais en direct de la communication de Jean Castex. On va retrouver maintenant la chronique cinéma de Margot, d'étoiles plein les yeux. Une chronique qui sera toujours accessible, quelles que soient les autorisations demandées, les possibilités, et qui vous replonge dans le cinéma. Je vous informe aussi que j'ai choisi, comme il y avait beaucoup trop de choses dans cette émission, de ne pas diffuser ce soir le reportage sur le dispositif du service civique, mais on le retrouvera la semaine prochaine. Allez, on retrouve Margot. Bonjour Margot.
Bonjour Anne-Li et bonjour à toutes et tous. Comment allez-vous ? Dans votre voiture ou derrière votre poste de radio ? Pour ma part, je reviens à l'antenne pour évoquer avec vous un film à partir de quelques extraits sonores.
Et ce soir, lequel as-tu choisi ?
Eh bien, pendant que je préparais cette chronique, à quelques heures de la conférence de presse du Premier ministre, et que je me demandais, comme vous peut-être, à quelle sauce il allait nous croquer, j'ai eu envie de vous parler d'un film ultra célèbre dans lequel il est question d'un autre requin. Si je vous dis bateau pas assez gros, nageurs insouciants et combat à mort de trois hommes contre un monstre maritime, vous me suivez ?
Je crois que je devine de quoi tu vas nous parler, oui.
Et oui, ce soir, nous partons pour le port en apparence tranquille d'Aminiti, sur une île charmante non loin de New York. Nous sommes fin juin, le ciel est bleu, le soleil brille, et les préparatifs battent leur plein à l'approche des célébrations de la fête nationale américaine le 4 juillet. Vous l'avez reconnu, ce soir nous parlons des Dents de la Mer, Jaws en anglais, réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1975. Un film qui ne va pas vous faire regretter l'été et ses baignades. Un film surtout qui a marqué l'histoire du cinéma américain par son succès phénoménal et inédit. Beaucoup le considèrent comme le premier blockbuster et l'inspiration et l'inspirateur d'une ribambelle d'autres films d'horreur jouant sur notre peur des profondeurs marines. Les films catastrophes, les monstres géants, l'épouvante, tout ça n'était pas nouveau dans le cinéma américain des années 70. Mais jusqu'alors, ces thématiques étaient réservées au cinéma dit de série B voire Z, des productions populaires mais complètement fauchées. Dans les années 50 ou 60, Roger Corman était un producteur incontournable de ce cinéma. Non, ce qui est nouveau en 1970, c'est que ce type de film va dorénavant acquérir ses lettres de noblesse en étant produit par de grands studios, Universal dans le cas du film de Spielberg. Le critique Jean-Baptiste Toré explique ainsi.
Avec les Dents de la Mer, Roger Corman comprend que les studios appliquent ces principes de films d'exploitation, mais avec plus d'argent et plus de talent. C'est la fin d'une époque.
Je vous propose maintenant d'écouter le premier extrait du film, la cultissime scène d'ouverture. Sur le fond noir du générique, dans une atmosphère aquatique, deux notes se répètent inlassablement et de plus en plus frénétiquement. Le ton est donné, étrange et inquiétant. La caméra balaye fluidement des fonds marins à mesure qu'elle avance. Ce que nous montre l'image, c'est ce que voit... qui au juste ? Un plongeur ? Un animal marin ? Mystère pour le moment, même si le titre qui vient d'apparaître, Jaws, c'est-à-dire mâchoire en anglais, n'est pas pour nous rassurer. Après ce point d'orgue musical qui nous sature de tension, une nouvelle séquence démarre sur la plage. La nuit est claire, des jeunes gens s'amusent autour d'un feu, chantent, jouent de l'harmonica, se draguent. Au son comme à l'image, le calme et l'insouciance ont remplacé l'inquiétude de la séquence précédente. Pourtant, et c'est la base même du suspense, nous, spectateurs, savons, pour avoir vu le générique, que la menace guette, tapie dans l'ombre des flots. Et notre regard sur ces ados joyeux est teinté d'une attente anxieuse. Que va-t-il leur arriver ?
Pour moi, le cinéma est un art totalement pictural. Ce qui m'attire le plus, ce sont les images et les atmosphères. Cette idée que le visuel raconte l'histoire.
Ainsi parle Steven Spielberg. Cette analyse s'applique à la plupart de ses films, mais pour Les Dents de la Mer, force est de constater que le réalisateur doit une fière chandelle à son compositeur, John Williams, qui a reçu un Oscar pour cette partition originale, de même que l'équipe son. Car Les Dents de la Mer est véritablement un film qui s'écoute autant qu'il se regarde, tant le thème de John Williams et le travail sur les bruitages donnent corps au personnage principal du film, le requin, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Avec brio, la bande sonore instaure une atmosphère mystérieuse, un sentiment de menace diffuse.
Un sentiment de menace diffuse ?
Oui, à ce moment de l'écriture de ma chronique, je me suis soudain dit « Ouh là là, mais on se croirait en 2020 !» C'est comme si le requin et toutes les peurs qu'il véhicule, à juste titre d'ailleurs, devenait une métaphore de la Covid. Bon, revenons au film. À défaut d'effets spéciaux numériques, Steven Spielberg avait à sa disposition pour le tournage des scènes d'attaque trois faux requins animatroniques de 8 mètres chacun. Mais le matériau dans lequel étaient produites ces maquettes géantes résistait mal à l'eau de mer. Et par ailleurs, et c'est flagrant quand on regarde le film avec nos yeux de spectateurs habitués aux prouesses technologiques, ces requins font particulièrement faux à l'image. Donc Steven Spielberg a dû adapter sa mise en scène à ses déconvenues. Et ce qu'il propose avec sa monteuse Verna Fields, qui a elle aussi reçu un Oscar pour le film, est bien plus fort. Le spectateur ne découvre le monstre à l'écran qu'au bout d'une heure de film, et encore très brièvement. Pourtant, le montage, la bande-son, les cadrages, tout concourt dans les dents de la mer à alimenter le suspense, attiser notre peur et titiller notre curiosité. Mais à quoi ressemble-t-il donc ce satané requin ? Écoutons justement un nouvel extrait du film. Une des filles du groupe autour du feu a plongé dans la mer et son compagnon complètement éméché tarde à se déshabiller pour la rejoindre. La plage au clair de lune. La nageuse est allongée dans l'eau, elle tend gracieusement la jambe à la verticale puis s'enfonce. Première sueur du spectateur. Mais nous la retrouvons au plan suivant, émergeant des flots, pour reprendre son souffle et observer l'astre brillant.
Tu viens pas dans l'eau ?
Sur la plage, son ami se débat avec ses vêtements. La musique nous avertit du danger. Nous sommes à présent sous l'eau, en plan subjectif, c'est-à-dire que la caméra est devenue les yeux du requin. À travers elle, nous voyons le corps de la nageuse. Puis nous revenons en surface pour l'admirer évoluer paisiblement dans les flots. Plus pour longtemps. La répétition des deux notes se fait menaçante et de nouveau sous l'eau, nous voyons les jambes de la baigneuse se rapprocher dangereusement. À la surface, la jeune fille est subitement aspirée dans l'eau. Son buste s'enfonce, puis sa tête. Les plans suivants nous la montrent traîner de droite et de gauche sans ménagement, hurlant et se débattant. Elle s'accroche à un pylône en vain et finit par sombrer définitivement dans un déluge de notes. À la surface, quelques tourbillons puis le calme. Sur la plage, son compagnon s'est endormi. Vous l'aurez compris, dans cet extrait, toujours pas de requin à l'image. On perçoit à nouveau sa présence grâce à la musique et au plan subjectif. Et ce qui est nouveau, c'est que par le son et le montage, qui alternent des plans nerveux sur la jeune fille qui crie en sombrant et d'autres plans plus posés sur son compagnon resté sur la plage, la menace se traduit à présent par le désordre qu'elle installe par endroits, en l'occurrence dans l'eau, et les effets qu'elle produit, la disparition d'une nageuse. Un peu comme les symptômes qui indiquent au médecin la présence d'une maladie, finalement. Une menace diffuse, invisible, qu'on identifierait grâce à ses symptômes, à défaut de bien la connaître. Vous me voyez devenir, non ? Le parallèle avec l'actualité est d'autant plus fascinant dans la suite du film, qui voit s'opposer plusieurs personnages suite à cette première attaque. Martin Brody, le commandant en chef de la police locale, désireux de protéger les habitants de l'île et de fermer les plages coûte que coûte, pour ne pas dire « quoi qu'il en coûte ». Larry Vaughan, le maire, en deux mots, à moins que ce ne soit en un seul, de la bourgade, alarmée par le tsunami économique que représenterait une telle décision pour le tourisme local. Et enfin, Matt Hooper, océanographe appelé en renfort pour son expertise scientifique et qui devient le poil à gratter du politique, comme tous les chercheurs. Écoutons-les tous les trois dans un nouvel extrait du film « Les dents de la mer ». Nous sommes au bord d'une plage noire de monde. Le squale a fait une nouvelle victime, un enfant, mais chacun veut croire que des pêcheurs l'ont capturé et mis hors d'état de nuire. Seule une affiche de promotion pour les plages d'Aminiti, détournée par un graffeur qui a ajouté un aileron de requin devant la photo d'une nageuse souriante, rappelle le contexte dramatique. Et Hooper, l'océanographe, a bien du mal à convaincre Vaughan, le maire, du danger encore présent.
Monsieur Vaughan. Ce que nous avons à affronter, c'est une machine à dévorer. L'engin parfait. Un authentique miracle de l'évolution. Cette machine nage, ingurgite et fabrique des requins. C'est sa fonction. Je vous en prie, examinez attentivement cette publicité détournée. Les proportions sont exactes.
Je vous vois venir avec vos gros sabots. Vous voulez être cité dans la revue nationale géographique ?
Larry, si nous consentons un gros sacrifice aujourd'hui, nous pourrons peut-être être sauvés pour le mois d'août.
Quoi, août ? Ah, mais nom de Dieu, demain c'est la fête nationale. Il s'agit pas de fermer le magasin. Un soleil pareil, ça fait une paye qu'on n'a pas vu ça. Ah, je veux bien qu'on se préoccupe de la vie des baigneurs et je vous laisse carte blanche pour que vous preniez les mesures qui s'imposent. Mais que nos plages soient bel et bien ouvertes pour le week-end.
On a un peu l'impression d'assister à un conseil de défense à l'Élysée, non ? Dur d'arbitrer et d'accepter le principe de précaution quand l'économie et la tentation de l'insouciance s'opposent au savoir et aux hypothèses des scientifiques. Alors, au-delà des qualités esthétiques du film de Spielberg et du plaisir de se faire peur dans son canapé, il est particulièrement captivant de regarder les dents de la mer à l'aune de cette année confinée qui s'achève bientôt. Comme si notre quotidien en 2020 trouvait un écho révélateur dans la mécanique bien huilée et cauchemardesque d'un film d'horreur. Oui, nous aimerions, comme les touristes sur la plage, aller nous baigner sans risque pour les fêtes de fin d'année. Et oui, nous souhaiterions, comme tous ces hommes intrépides partis à la chasse aux monstres des mers, avoir vaincu la bête. À nous la gloire et la renommée dans les journaux, pour les pêcheurs, ou sur les réseaux sociaux, pour les apprentis épidémiologistes. À nous la récompense promise, pour les pêcheurs à nouveau, et les commandes astronomiques, pour les labos qui proposeront un vaccin. Mais comme le remarque Matt Hooper devant la carcasse d'un énorme requin-tigre rapporté par les pêcheurs, c'est peut-être le bon pêcheur, ou probablement pas. Alors, en attendant d'avoir vraiment triomphé de cette menace diffuse, écoutons pour finir ce monologue de Quint, marin dur à cuire qui accompagne le flic Brody et le scientifique Hooper dans leur traque du squal. Il évoque avec eux ses souvenirs du naufrage meurtrier de l'USS Indianapolis, croiseur militaire sur lequel il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale et dont près de trois quarts des marins sont morts, dévorés par les requins avant même d'avoir pu être secourus.
Aux premières lueurs de l'aube, les requins commencent à rôder, alors on a formé des genres de groupes compacts. Comme les carrés qu'il y avait dans les batailles dans l'ancien temps. Voyez ce qu'ils ont fait à Waterloo. Alors on s'était dit, si un requin approche de trop près, le premier rang se débattra dans l'eau, il gueulera, il se remuera, des fois ça suffit, le requin fout le camp. Mais des fois ça marche pas, il reste là. Si vraiment il s'incruste, alors là, attention, il vous regarde droit dans les yeux. Et je vais vous dire, moi, ça a des yeux. Sans vie, sans rien, une paire d'yeux tout noirs, des yeux de nounours. Quand il s'approche de vous, le requin, il n'est pas vivant. Jusqu'à ce qu'il vous happe. Là, ses petits yeux noirs, ils deviennent blancs. Et alors, on entend des cris terribles qui vous percent les tympans. Et l'océan est tout rouge. Et malgré qu'on se débatte, qu'on gueule, qu'on hurle, ça grouille de partout. Et ça vous met en pièces.
Allez, joyeuses fêtes de fin d'année à tous. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles chroniques cinéma. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de nous tous.
Les Dents de la Mer est un film réalisé par Steven Spielberg. Il est sorti en salle pour la première fois en juin 1975.
Le film est disponible en version restaurée et en vidéo à la demande sur plusieurs plateformes, ainsi qu'en DVD et Blu-ray. Éditeur Universal Pictures.
beaucoup Margot pour cette toile plein les yeux. On retrouvera la prochaine chronique cinéma en 2021 désormais. J'ajoute quand même que Les Dents de la Mer est certainement un super film et ça me donne très envie de le regarder avec mon regard de 2020. Mais il a fait beaucoup de tort aux requins qui ne nous en veulent pas personnellement à nous les humains. Même s'il y a des accidents qui arrivent et oui, c'est une grande tristesse. Bref, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette oreille curieuse, de cette semaine d'émission. On est un peu en retard, mais j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez réécouter tout ce dont on a parlé, tous les podcasts de l'oreille curieuse en ligne sur le site de Radio G, à la page de l'émission. On se retrouve lundi à 18h10 et nous serons avec Engênante Opéra, un des partenaires de l'émission, pour parler d'une de leurs actions culturelles. Un projet mené avec le réseau Arthur dans les lycées agricoles de la région. Et ce projet s'appelle Voix Tracée. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire, nous envoyer des encouragements, des retours critiques, positifs, négatifs, tout ce que vous voulez, par mail à prog.radio-g@gmail.com ou bien sur les pages des réseaux sociaux de Radio G. On a Twitter, Instagram, Facebook. On vous lira, on vous répondra. À 19h, dans quelques minutes, eh bien, vous allez retrouver la suite de la programmation musicale de Radio G. Je ne me rappelle plus de l'émission que vous allez retrouver à 20h, donc je ne vous l'annonce pas. Ce sera une surprise. Soit Quasar on the Air, soit Tonics Live. Les deux sont des très belles émissions. Je vous souhaite un bon week-end. Ne déprimez pas trop. Regardez des films, des séries. L'hiver c'est beau malgré tout. On va passer un Noël comme on peut et puis on pourra ressortir un petit peu plus petit à petit. Ce sera très sympa. En tout cas, on sera là la semaine prochaine pour passer des bons moments de radio. Bonne soirée, à lundi.
Radio G, 101.5 FM.